votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, bonjour, vous êtes bien et même très bien sur les 106,6 MHz de Radio Campus et vous écoutez Angle d'Attaque, Attaque à deux terrassés, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Aujourd'hui à l'antenne pour vous servir, René La Science, Florent de Démosphère qui est aux manettes, Christian, et pour servir également une toute nouvelle voix pour Attaque, une voix même lyrique, celle d'Alice. Bonjour Alice, bienvenue.
Bonjour.
Voilà, les présentations d'usage étant faites, de quoi qu'on parle aujourd'hui ? Eh bien, d'un sujet qui n'est pas vraiment nouveau. On en parle depuis longtemps et sous toutes les latitudes, puisque selon Eduardo Mataroche Suplicy, vous entendez mon accent portugais magnifique quand même, un des leaders du Parti des travailleurs brésiliens, c'est Thomas More, auteur de l'Utopie bien sûr, qui en aurait avancé l'idée. On est quand même au début du XVIe siècle, c'est donc pas d'hier. Cette idée, on la trouve proposée, et c'est pas banal, par des gens de la droite la plus libérale et des gens se réclamant de la gauche la plus à gauche. Mais quelle est cette idée ? Quelle est cette idée ? Encore un mot, je vous la fais à la Julien Lepers. Top ! Cette idée a ressurgi récemment dans la presse, le mois dernier, avec un rapport du Conseil national du numérique à la ministre du Travail. Elle est suggérée comme mode de rémunération pour compenser les pertes de revenus. Vu qu'on aura des périodes de salariat et de non-salariat dans la société numérique qui nous attend, cette idée, tu la portes depuis quelque temps déjà, Virginie, il s'agit du...
Le revenu de base.
Voilà, ouais. C'est ça.
Elle a trouvé la première question.
C'était un peu lourd, mais voilà. Virginie Deleu, notre invitée du jour, est coordinatrice locale du mouvement français pour un revenu de base. Elle est notre invitée et sera interviewée par Alice et, une fois n'est pas coutume, par Florent. Bien entendu, René et moi interviendrons sûrement, on ne peut pas s'en empêcher de toute façon. Encore un mot, il me faut préciser que le revenu inconditionnel, on l'a appelé comme ça, fait partie d'un amendement du rapport d'orientation des assises d'attaque. C'est quelque chose d'un peu nouveau et c'est bien entendu, entre autres pour cette raison, que Virginie est notre invitée. Mais Virginie, pour commencer, on a une petite intro qu'a préparée pour toi Florent.
À quoi ça sert quand
même ? Bon, c'est bien, ça occupe.
Le travail, il faut pas que ça soit une contrainte.
On cherche du boulot. Vous savez pas où on pourrait trouver du boulot, s'il vous plaît ?
Je pense que je voulais rien faire, comme tout le monde.
Je fais une demi-heure de yoga.
On en fait moins grand. On s'occupe, comme ça, on se passe le temps.
Ce qui veut dire que, tu te lèves le matin, et ben, tu penses à ton boulot. Tu te couches le soir, ça dépend de ce que tu as fait. Si c'est un peu limite, et ben, tu penses encore à ton boulot.
Ben nous, d'après toi, on travaille. Pour toi, on travaille.
Bah, normalement, tu travailles. Mais bon.
On peut pas faire du bon boulot si on n'a pas du matos professionnel.
Bah non, je sais plus, je fais rien.
Et pour t'occuper ?
Pour moi, un peu de jardin, puis... Jardin, je vais me balader.
Il y avait une idée de...
Si t'as de quoi vivre sans bosser, peut-être...
De prendre quelques jours de repos, oui, mais...
Bon. C'est pas obligé, hein. Bon, j'en connais qui s'arrêtent jamais.
Alors, oui, donc c'est Florent, je vais interviewer Virginie. Et avant, bah, quelques petits mots. Donc, tous les jours, on nous le répète, il y a trop de chômage, il faut créer de l'emploi. Les plus précaires exigent des CDI, les syndicats se battent pour sauvegarder des emplois à tout prix. Et si on prenait un peu le recul et si on prenait le problème à la racine ? Pourquoi un travailleur cherche-t-il un emploi ? Le salaire souvent, mais aussi avoir un travail qui l'épanouit. Et s'il existait une solution pour que tout le monde ait de quoi vivre décemment et en plus avoir un travail qu'il choisit ? Et vous, que feriez-vous si vous aviez un revenu suffisant pour vivre tous les mois jusqu'à votre mort, et ceci sans condition ?
Et c'est vrai ça? Qu'est-ce que je ferais?
Oui, je pourrais cultiver mon potager, enfin.
Et vous, vous avez trouvé ce que vous ferez? Et donc, le revenu de base, c'est ce que proposent hein, les partisans. Donc, revenu de base, c'est une appellation plus courante. Mais on peut aussi entendre parler d'allocation d'existence, de revenu garanti, d'allocation garantie. Il y a autant de noms qu'il y a d'auteurs. Et tous ont un point commun, déjà, c'est de séparer le travail, les revenus du travail, qui permet de vivre décemment. Non, excusez-moi. C'est de séparer le travail qui, de revenus qui permettent de vivre récemment. On ne rémunère plus un emploi occupé par un travailleur, mais la personne directement. Mais alors, avec un revenu de base, que devient ce qu'on appelle la valeur travail? C'est tout un monde du travail qui est bousculé, qui peut déstabiliser plus d'un. J'imagine, cher auditeur, que... et auditrice, que vous posez plein de questions. Peut-être trouvez-vous ça utopique, irréalisable, ou bien que ça ne marchera jamais, l'économie va s'effondrer, qu'on ne pourra jamais financer un tel revenu. C'est pour répondre à ces questions et bien d'autres qu'on a aujourd'hui invité Virginie Deleu. Déjà, donc Virginie, est-ce que tu peux présenter le mouvement français du revenu de base en cycle MFRB?
Bonjour. Oui. Alors le mouvement français pour un revenu de base est né il y a 3 ans, en même temps qu'une initiative citoyenne européenne qui avait été lancée et qui a récolté 350 000 signatures. Donc né il y a 3 ans avec une volonté très forte d'être transpartisan. Donc c'est un espace un peu unique dans la société où on parle d'un même outil, d'un même levier, c'est le revenu de base. Et pourtant avec des directions, des applications, des réalisations différentes. Donc c'est un concept, mais finalement derrière plein de concrétisations différentes.
Et donc, d'où vient cette idée? De quand elle date?
Alors, le revenu de base, donc, le mouvement définit ce revenu de base de façon très précise. Je vous lis la définition formelle. Le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Donc moi, en tant que représentante du MFRB, je vais du coup avoir ici un discours transpartisan qui répond à cette définition, avec le petit plus que le mouvement ne va pas défendre des revenus de base, entre guillemets, qui seraient des régressions sociales. Ça, c'est notre limite. Donc très concrètement, inaliénable, on ne pourra jamais vous l'enlever. Vous l'avez de la naissance à la mort, comme tu l'as dit dans ton intro. Inconditionnel, c'est vous l'avez, vous travaillez pas, vous faites des activités plus ou moins reconnues sur le marché de l'emploi ou pas. Tout est reconnu. Cumulable, parce que si vous avez un salaire, c'est en plus, ou des rentes, ou des aides particulières. Et individuel, parce que beaucoup d'aides aujourd'hui sont soumises à conditions. Si vous êtes en couple, vous avez moins, puisqu'on considère que vous dépensez moins, etc. Ce qui semble une source d'injustice et de tentation à la fraude permanente, de suspicion aussi. Donc à partir de cette base-là, on va défendre des revenus de base très différents et aussi assez anciens, puisque donc, Thomas More a été cité. Il y a Thomas Paine aussi qui a lancé la justice agraire pendant la Révolution française. Il partait tout simplement du principe que la terre étant à tout le monde, là je pense que tout le monde est d'accord, mais que les propriétaires terriens en ayant très concrètement et la propriété et les fruits, il fallait redistribuer d'une autre façon. Donc les propriétaires terriens auraient dû, si c'était passé à l'époque, reverser une partie de leurs revenus à ceux qui n'avaient pas de titre de propriété particulier. De cette idée, alors elle a fait son cheminement de façon plus ou moins visible en politique, on arrive dans les années 60, 70, 80, un peu partout dans le monde, des expérimentations qui se sont développées. On peut penser très rapidement les États-Unis qui voulaient à tout prix vérifier que les gens ne travailleraient pas moins, parce que c'est souvent la première angoisse qui surgit. Eh bien non. Soyez rassurés, ces études ont prouvé qu'il n'y avait que entre 10 et 30% de travailleurs moins, et encore que dans 2 catégories de personnes, les mamans, on comprend pourquoi, et les étudiants, pareil, qui devaient certainement utiliser ce temps libre pour améliorer la société avec leur niveau d'études. Bon, ça n'a pas marché parce que finalement, il y a eu aussi un petit impondérable, c'est que les femmes ont quitté quelques maris. Le niveau des divorces ont effrayé évidemment les conservateurs américains de l'époque aussi, il faut se remettre dans le contexte. Donc l'expérimentation, enfin les quatre expérimentations ont été arrêtées. Mais la Maison-Blanche est en train de reprendre les résultats aujourd'hui et envisage dans la suite de l'Obamacare de relancer des expérimentations. Il y a eu des expérimentations aussi au Canada. Très intéressante puisqu'elles ont montré qu'il y avait notamment comme effet meilleur milieu, niveau d'études, meilleure nutrition, meilleure santé, surtout en tout ce qui concernait les maladies psycho et les accidents du travail, donc tout le mal-être au travail dont on parle beaucoup aujourd'hui. D'autres expérimentations, mais vraiment partout dans le monde. En Namibie, une expérimentation qui a duré 2 ans, qui a été plombée par le FMI, qui a un peu truqué les chiffres, où on voit pareil, toujours la même chose, meilleure fréquentation des écoles, meilleure nutrition, meilleure santé, et aussi une explosion des échanges économiques, puisque finalement chacun se met à des petites activités qui sont compatibles avec par exemple la gestion de la maison ou de la famille pour les femmes. Surtout, donc 300% de plus d'échanges commerciaux en plus de ce que le revenu de base apportait.
Une question de René. Tu vous avais dit qu'il ne pourrait pas s'en empêcher.
Justement, donc cette expérience de Namibie était au plan économique positive. Alors, on ne comprend pas ce qu'a fait le FMI là.
Alors officiellement, il s'est trompé dans les chiffres.
Oui, ça fait beaucoup. Il se trompe souvent.
Et du coup, le gouvernement namibien a enterré l'expérimentation. Heureusement, les habitants eux-mêmes, très forts de ce qu'ils avaient appris, et notamment en termes de citoyenneté, se sont organisés en comité. Donc aujourd'hui, on peut contribuer à l'expérimentation par fonds privés. Et eux-mêmes vont dans d'autres villages pour partager ce qu'ils ont vécu, ce que ça a pu leur apporter. Donc voilà, en termes de citoyenneté, de pouvoir citoyen, c'est quand même assez extraordinaire. Autre expérimentation en Inde avec l'UNICEF, là les femmes sont visées principalement et on voit qu'elles investissent beaucoup sur les enfants, donc en termes d'études, de nutrition, de santé, et aussi sur plein de petites activités, donc tout ce qui est auto-entrepreneuriat finalement, mieux que le microcrédit puisque c'est du long terme cette fois-ci. Et voilà, donc d'autres expérimentations qui sont en cours aujourd'hui, bientôt en Finlande, depuis le 1er janvier avec les allocataires aux Pays-Bas, et une votation suisse qui est très attendue le 5 juin pour voir si la Suisse se lance dans l'expérience.
Oui, ça fait beaucoup, beaucoup de choses et c'est très positif. Je vais te poser quelques questions que sans doute on a, qu'on pense quand on entend pour la première fois parler du revenu de base. Donc, si tout le monde aurait un revenu de base garanti, pourquoi il se leverait pour travailler le matin et qui va faire tous les travaux pénibles indispensables à la société que soi-disant personne pourrait faire sans qu'il y ait la carotte du salaire à la fin du mois?
Écoute Florent, je te remercie de ta question. Elle aussi n'est pas nouvelle. On la retrouve notamment au temps de l'abolition de l'esclavage, figure-toi, c'était la grande question. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour faire marcher quand même les champs de coton à l'époque ou autres? Donc c'est toujours la même question, mais qui finalement donne toujours la même réponse. C'est que libérer les gens, c'est-à-dire qu'ils aillent plus vers un travail choisi, ils sont plus efficaces. C'est fou, mais quand on ne subit pas, on est plus motivé, on est plus créatif. Donc on va certainement retrouver, en tout cas on peut l'imaginer, les mêmes effets, une amélioration des conditions de travail puisque les employés, quel que soit leur statut, vont pouvoir mieux négocier, non seulement le salaire, on pense tout de suite à ce type de reconnaissance, mais qui finalement est plus quantitatif que qualitatif. On oublie souvent que les conditions de travail, c'est beaucoup plus large que le salaire, c'est le temps de travail. Beaucoup de gens qui répondent à la fameuse question que vous êtes appropriée en début d'émission, c'est « et vous, que feriez-vous avec votre revenu de base ?» 60% disent « en fait, je continue à travailler comme avant ». 30% disent « ah ben, c'est pas le problème du travail ou même de l'emploi, Mais voilà, ça serait plutôt les conditions de travail, donc travail à temps partiel, souvent pour les enfants, pour un parent âgé ou autre, ou pour la formation, pour pouvoir alterner aussi avec une activité un peu plus choisie, peut-être qui ait plus de sens, ce serait du bénévolat ou du temps pour soi. Et même se tourner le pouce est un travail, sachez-le, hein, les neurosciences nous prouvent que notre temps a besoin de repos, et que si on ne se laisse pas ce temps de repos, eh ben, on n'a pas de sens à notre vie, on ne se construit pas d'identité, on est moins créatif, etc. Bref, tout ce qu'on se souhaite à nous, à nos enfants, nos voisins, etc. Donc la question ne se pose pas tant comme ça, plutôt que peut-être la place des syndicats pour accompagner après les travailleurs à négocier de façon peut-être un peu plus individuelle qu'aujourd'hui leurs conditions de travail, avoir une vision plus large, le sens de mon travail, l'organisation du temps, de l'espace, etc. L'autonomie, beaucoup dans le travail, qui donne du sens. Et la question du salaire, finalement, pourrait être relativisée. Il n'y aurait plus le chantage à la fin, etc. On peut imaginer, on peut se projeter très largement là-dessus en s'appuyant sur les expérimentations qui ont déjà eu lieu.
Oui, puis pour l'histoire des tâches pénibles, on peut aussi imaginer une meilleure répartition des tâches, hein, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent les travaux les plus pénibles, balayer dans la rue. Il y en a sans doute qui aiment bien faire ça, hein, mais il faut mieux que chacun s'occupe de ramasser sa merde au lieu que ce soit toujours les mêmes.
C'est vrai, ouais. J'adasse de ramasser les poubelles.
Ah bah si, pourquoi pas.
En tout cas, c'est un nouveau pacte social qui est intéressant, et on le voit aussi dans l'énergie collaborative, ou même quand on trie nos déchets, on fait déjà ça. Quand on est consommateur sur Internet, il y a déjà plein de tâches dont on soulage les banques ou tous les types de guichets. Donc je pense qu'on le fait déjà, pourquoi pas avec une réflexion collective, se dire voilà, telle tâche est vraiment importante pour la société. Bon, les éboueurs, c'est la première idée qui vient, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Et par contre, peut-être des emplois complètement soit inutiles, au pire, nuisibles, toxiques pour l'environnement ou pour l'être humain tout simplement, ou simplement superflus.
Donc une autre question. Donc aujourd'hui en France, il existe déjà différentes allocations, et on pourrait dire qu'on peut déjà se constituer une sorte de revenu de base. Donc qu'est-ce qu'il y aurait comme différence?
Alors oui. Et non, oui, parce qu'il faut effectivement avoir conscience qu'en France, on a un filet de sécurité qui n'existe pas ailleurs. Et en même temps, ce filet est plein de trous. Et surtout, il est contraignant et très humiliant. Donc un revenu de base par rapport à des gens qui sont au RSA, que j'ai pu rencontrer, des dames qui ont fait récemment un petit livret sur leur vécu, elles accueillaient l'idée de façon très intéressante en disant, mais c'est pas, à la limite, si c'est pas plus, on s'en fout. C'est surtout l'idée de pas devoir déjà perdre un temps fou dans les guichets. C'est impressionnant. On imagine pas le temps qu'il faut pour remplir trois dossiers, et surtout l'humiliation, alors au guichet d'abord, mais aussi juste dans la rue. Certaines n'osaient même pas dire à leur propre famille qu'elles étaient au RSA. Donc tout ça en moins, c'est un sentiment de précarité et tous les maux physiques et moraux qui sont associés.
Oui, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, les RSA, les allocations, les pensions retraite, j'en oublie, c'est déjà ce qui est déjà bien dans notre société, c'est déjà des revenus qui sont en quelque sorte déconnectés de l'emploi, mais comme tu le dis si bien, c'est conditionné souvent à des droits, et il faut donc prouver qu'on a sans doute déjà travaillé, ou prouver qu'on est suffisamment pauvre pour l'avoir, alors que le revenu de base, c'est à tout le monde, c'est donné à tout le monde, aux plus pauvres comme aux plus riches. Ouais.
Oui, ceci d'autant plus que le RSA, ces derniers temps, fait l'objet d'attaques des politiques, d'ailleurs. Pour considérer, enfin, toujours pour faire peser sur les bénéficiaires qui sont des assistés, etc.
C'est le cas de l'Alsace, là, avec travail volontaire obligatoire.
Oui, c'est ce qui est heureusement inconstitutionnel, je crois.
Oui, dans le Bas-Rhin, pour reprendre ce que vient de dire Alice, effectivement, on propose, la région propose de l'attribution du RSA sous bénéfice, effectivement, d'un travail de 7 heures. Ce qui devient un bénévolat volontaire, et donc ce qui est interdit par la loi. On passe peut-être à une autre question, Florent.
Oui. La grande question, c'est comment on va financer un tel revenu de base alors qu'on nous dit tout le temps que les caisses sont vides.
Intéressante. Alors très rapidement, je pense que vous trouverez beaucoup plus d'informations plus précises avec tous les chiffres que vous voulez dans le site revenu-de-base.info. Mais pour être schématique, il y a de l'argent, on le sait, puisque certains en ont beaucoup trop, même ils savent même plus ce qu'ils veulent en faire. Donc ça, c'est pas tant le problème. La question n'est pas là. La question, c'est comment le redistribuer. Donc voilà, quelques pistes de réflexion. D'abord, il y a un premier levier de financement qu'on ne peut pas trop quantifier, c'est toutes les économies qu'on ferait avec un revenu de base. Donc ça peut être tout ce qui est fraude déjà aujourd'hui. Pourquoi frauder si on l'a et qu'en plus jusqu'à la fin de notre vie. Ensuite, tout ce qui est résultat de la pression, du sentiment de précarité, de la peur en général, et qui donne des maladies, qui donne des addictions même. Bon, la surconsommation, la délinquance elle-même, puisque la délinquance est souvent due à un sentiment d'impuissance ou d'injustice. Donc on pourrait imaginer, comme dans les expérimentations, qu'on aurait une baisse de tout ça et des économies non quantifiables pour l'instant. Donc je les mets un petit peu de côté, mais à avoir en tête. De façon très concrète, Marc de Vasca, un économiste, a fait un premier calcul sur ce que l'État donne déjà en France, alors en modifiant des petites choses, mais sans toucher ni aux services publics, ni à tout ce qui est allocation. Chômage, retraite, sécu. Et il ne touche même pas à l'allocation logement, même si elle mériterait certainement d'être un peu réfléchie. Donc tout ça gardé, on peut donner aujourd'hui à chaque adulte en France 450 euros et 225 par enfant.
Donc ça, oui, c'est ce qui est déjà,
ce qui est déjà acquis.
Acquis en remplaçant le revenu de base par certaines choses.
Voilà. Donc en gagnant en rapidité d'exécution, en systématisation, puisque tout le monde sait qu'il le recevra toujours, et en économisant certainement des emplois, je vous rassure, qui se trouveront leur utilité dans l'éducation, dans la santé ou dans l'accompagnement social des gens pour trouver un emploi ou développer leurs compétences autres. À ça, on peut ajouter d'autres leviers de fiscalité. Par exemple, donc des recherches sont faites autour de la TVA, la CSG, etc. Je vous en passe, plus des taxes précises. On peut monter jusqu'à 600, jusqu'à 800 euros avec des leviers de fiscalité. Et on peut rajouter à ça encore soit des gratuités, soit donc étendre un petit peu les services publics au transport, par exemple, aux communications. On se disait tout à l'heure que sans Internet aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'insertion sociale. On peut rajouter aussi la création monétaire. Alors, un petit point sur les monnaies locales qui ne sont pas vraiment de la création monétaire, mais qui ont l'avantage de stimuler l'économie locale, sociale et solidaire. Et la création monétaire, je ne vais pas développer beaucoup aujourd'hui. Ça ferait certainement l'objet d'une émission à part entière. Mais pareil, vous trouverez des explications, des articles, des vidéos sur le site. Ça peut être au niveau français. Donc l'idée de l'euro-franc supportée par Yolande Bresson est reprise par Nouvelle Donne. Ça peut être la création monétaire européenne, c'est le quantitative easing, désolé pour l'accent, c'est-à-dire tout ce que la BCE donne directement aux banques privées pour renflouer l'économie, disent-ils, elles pourraient nous le donner directement à nous, d'autant que ce n'est pas interdit par le traité de Lisbonne. Entre nous, je pense qu'ils n'y ont même pas pensé, mais on peut en profiter. Et même au niveau mondial, puisqu'il y a des crypto-monnaies qui sont en cours de réflexion, etc. Donc tout ça pourrait nous amener à quelque chose qui pourrait dépasser les 1000 euros avec, en France, hein, je parle, avec comme repère le seuil de pauvreté en France qui est de 960 à peu près, je crois. Donc voilà, ça peut nous donner une estimation de ce qui est crédible et très rapidement, parce que le 450, on peut l'installer en 5 ans en France, le temps de changer quelques infrastructures administrative.
En fin de compte, c'est un peu vouloir reprendre en main la distribution de la monnaie dans nos pays, qui est aujourd'hui un peu accaparée par les banques, on va dire, et ceux qui les contrôlent.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs effets à cette redistribution. Un premier effet de simplification qui intéresse aussi les gens de droite. Donc, voilà, un minimum qui peut être consensuel et que donc, qui est crédible et qu'on peut avoir très rapidement. Je parlais de 5 ans, c'est réaliste. Et un deuxième effet qui se coule, si j'ose le dire, c'est si les citoyens veulent plus, effectivement, il y a ces autres leviers que j'ai cités et qu'on peut ajouter, puisqu'ils sont complémentaires. Donc voilà, après c'est d'autres organisations à mettre en place.
Oui, alors l'argument de la droite, effectivement, c'est celui-là, enfin, ce que tu dis, c'est d'ailleurs une simplification, parce que je lisais récemment Milton Friedman, on a les lectures qu'on peut, d'expliquer que ça permettait d'éviter les revenus catégoriels en uniformisant un revenu de base pour tous. René avait une question.
Oui, justement, ces 1000 euros viendraient-ils en complément ou se substitueraient-ils à certaines prestations sociales actuelles, ou est-ce que les choses sont peut-être pas encore bien tranchées ou...
Alors, rien n'est tranché, hein, tant que les citoyens n'ont pas voté pour leur revenu de base. Voilà. Nous, on porte les différentes concrétisations possibles, on travaille dessus. Très concrètement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le calcul de 450, puisque nous, on ne parle sans régression sociale, on est d'accord, hein. Le 450, effectivement, va intégrer tout ce qui est caution familiale, les aides de rentrée pour les enfants, etc., tout ce qui est RSA, etc. Donc oui, il y en a certaines qui sont facilitées en étant inconditionnalisées de cette façon. Et au-delà de 450, on sait en plus, et je vous rappelle que c'est cumulable avec le salaire, par exemple.
D'accord.
Et donc, on l'a dit, c'est que le revenu de base est aussi défendu par la droite. Et est-ce que derrière leur tête, s'ils veulent mettre ça en place, ça serait pas une sorte de moyen d'acheter la paix sociale, hein? On donne de l'argent aux gens et comme ça, ils restent tranquilles chez eux sans les embêter.
T'es un pervers, Florent.
Alors, je comprends la vigilance qu'il y a derrière et je pense qu'il faut la garder. Après, il ne faudrait pas que cette peur nous empêche de faire ce pas en avant. Ça serait quand même de l'auto-suicide, ce qui est un peu redondant d'ailleurs. Première réponse, d'abord, attention aux fantasmes de les gens, les riches, les patrons, etc. Mais j'ai rencontré des gens de droite qui veulent abolir l'extrême pauvreté. Et ben, ça tombe bien, moi aussi. Et après, l'histoire de la paix sociale, ben, très bien. Moi, je suis pour la paix sociale. Pourquoi ? Parce qu'on voit aujourd'hui plein d'alternatives qui se développent, entre autres grâce au RSA ou à notre système social imparfait. Et il y a des créativités. Enfin, je pense à Alternatiba qui a permis d'en réunir plein. C'est des possibilités qui ne sont pas forcément dans la confrontation directe, même si la lutte est utile. Il y a aussi tout un système de propositions qui existent et qui pourraient trouver son impulsion dans le revenu de base. Donc, dans la paix sociale, on est beaucoup plus créatif. Donc moi, la paix sociale ne me fait pas peur. Après, qu'est-ce que nous, on en fera de notre revenu de base ? Bah voilà, ça nous appartient, ça appartient à moi, à vous, à tout le monde. Et c'est certainement pas au mouvement français pour un revenu de base de projeter ou de décider d'avance que les gens vont rester à flémarder devant leur télé ou au contraire à militer. Et travaille aussi aux syndicats, aux partis, aux associations, à l'éducation populaire. Et là, on aura vraiment de quoi travailler. On aura les moyens en temps et un peu plus en argent aussi.
Oui, parce que ça pourrait permettre... De dégager du temps pour que les citoyens puissent vraiment avoir un exercice démocratique, quoi, de s'engager dans la démocratie du pays et donc d'aller encore plus loin dans les avancées sociales.
Et tout en respectant aussi le rythme de chacun. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tomber dans une normalisation de dire demain les gens doivent savoir, intégrer la démocratie participative de telle façon. Et on a des rythmes différents aussi et le revenu de base permet de lier et l'égalité et la liberté.
Alice.
Et puis en somme, avec du gain en termes de stress, plus l'obligation de faire de l'argent sans être sûr de l'avoir. Enfin, je pense aux travailleurs précaires. Enfin, c'est un autre projet social finalement qui se mettra en place comme ça se met déjà en place par les précarités où il y a des alternatives qui se développent. Finalement, là, on rend les alternatives vraiment autonome, financièrement parlant, c'est vraiment l'autonomie qui est en jeu, en somme, dans ce projet-là.
Et la responsabilisation, c'est-à-dire que chaque citoyen aura les moyens maintenant de faire ses choix. Donc, outre le fait que ça serait bien que l'école et la formation continue aident un peu plus la compétence d'autonomie, puisqu'elle sera encore plus utile, mais voilà, je ne pourrai plus me plaindre de ne pas pouvoir faire mes choix, puisque j'aurai une marge plus grande et de négociation face à mon employeur, avec l'aide des syndicats bien sûr, et face à moi-même finalement.
Sans courir après l'argent.
Voilà.
Oui, sans courir après l'argent, mais je me pose aussi la question de savoir, puisqu'on est dans une période d'afflux d'immigrés, est-ce que le revenu de base concerne effectivement les non-nationaux, on va dire, pour faire simple?
Alors, on a fait exprès dans notre définition de parler de communauté politique pour plusieurs raisons. C'est que le revenu de base ne pourra pas s'installer de façon universelle, même si on l'a mis aussi parce que c'est notre objectif suprême. Donc, forcément, les expérimentations vont exclure ceux qui ne sont pas dans le bassin de vie, dans la région, dans le pays ou dans le continent qui expérimentent. C'est déjà le cas. Après, c'est le débat citoyen. A priori, il pourrait être logique de considérer que les résidents d'un bassin de vie puissent participer aux décisions et donc recevoir une partie des richesses de ce bassin de vie. Mais voilà, là, c'est le pouvoir démocratique des citoyens et à nous tous de décider.
La définition de la communauté, quand même, un peu compliquée.
Communauté politique, bien sûr.
Ouais, donc, j'aurais donc une autre question. Il y a beaucoup de partisans du revenu de base qui pensent qu'aujourd'hui, c'est possible de l'instaurer grâce à l'automatisation de beaucoup de tâches, hein, qui libère beaucoup d'emplois qui peuvent être des fois un peu aliénants. Et du coup, est-ce que ça ne peut pas être des fois une perte d'autonomie? Il y a aussi tous les problèmes liés aux nouvelles technologies, liés à l'environnement. Et donc aussi, si on donne peut-être... Enfin, est-ce que des fois aussi, le revenu de base, ça ne serait pas une prime à la consommation? C'est-à-dire que, après, est-ce que là, derrière, les personnes qui ont un revenu de base ne vont pas consommer à outrance alors qu'aujourd'hui, les ressources sont de plus en plus limitées. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux répondre par rapport à ces questions de l'environnement, tout ça?
Oui, finalement, du quantitatif ou du qualitatif, c'est ça la question. Est-ce qu'on va aller vers du quantitatif, du plus de consommation, du...
Alors, par rapport à l'automatisation, je pense à mon grand-père qui s'est battu en 36 et en 45 pour libérer l'homme du travail. Donc, on va quand même pas maintenant faire exprès de créer des emplois alors qu'une machine ou un logiciel pourrait remplacer. Par contre, ce que j'entends derrière vos questions, c'est le lien avec l'écologie aussi. C'est-à-dire que je pense que démocratiquement, il y aura une réflexion à faire entre une machine ou un logiciel ou autre chose qui remplace des emplois, qui libère du temps humain, son coût. Écologique en termes de ressources. Les machines ont besoin de beaucoup d'eau souvent ou des énergies diverses et variées. Et là, il devra y avoir un débat au niveau local, certainement, ce serait mieux, au niveau national et au niveau global aussi. Mais voilà, ça sera à réfléchir. C'est sûr que si on revient à des travaux des champs un peu plus respectueux de la nature, on arrêtera les grosses moisses battes qui creusent sur 30 cm et qui détruisent tout l'équilibre du fameux humus. Voilà, je vous fais pas un cours maintenant.
Au lieu de mettre des
ça prendra plus de temps humain, c'est sûr.
Au lieu de mettre des herbicides, on peut peut-être les arracher à la main.
Tout à fait.
Puis si on n'a plus à courir après l'argent, on peut prendre le temps de faire certaines choses qu'on fait faire par des machines. Parce qu'on dit qu'on n'a pas le temps de le faire faire par des mains, quoi. Le travail manuel coûte plus cher.
Mais il apporte aussi son taux de plaisir. Et c'est ça qu'on a peut-être tendance à oublier.
Le qualitatif.
Rentrer des données Excel à longueur de journée, si on peut s'en passer, c'est pas plus mal. Porter des grosses poubelles puantes, je vous invite à y réfléchir. Par contre, effectivement, faire du travail relationnel, de formation, d'accompagnement social, ou même de travail de la terre, très volontiers.
D'ailleurs, il y a les objectifs de croissance qui proposent leur propre revenu de base. Donc c'est la dotation inconditionnelle d'autonomie et donc qui relie à la fois un revenu peut-être plus bas que ce qui est dit la plupart du temps, mais qui associe beaucoup de gratuité, qui associe un impôt maximal qui permet aussi de financer une partie du revenu de base, parce qu'au-delà d'un certain revenu, on prend tout. Et la gratuité. C'est un autre projet de société qui prend en compte, qui met vraiment au centre les problèmes écologiques
à venir. Qu'on défend aussi.
Et que vous défendez aussi, oui. Alors, aujourd'hui, comment se porte le mouvement français pour un revenu de base
Oula, on est tous en foufelle, comme on dit chez ici, parce que le gouvernement s'en préoccupe beaucoup, la ministre du Travail, le Premier ministre sont intéressés, il y aura un groupe de travail transpartisan à l'Assemblée nationale, les expérimentations tout autour à suivre, les groupes locaux qui se multiplient, on est 65 aujourd'hui, donc on essaie de débattre un maximum, donc je vous invite à nous rejoindre et adhérer, parce que nos 750 adhérents à partir de 5 euros sont bien moindres que nos 50 000 sympathisants. Donc il faut qu'on fasse poids aujourd'hui sur la question. Et on essaye toujours de garder ce côté transpartisan qui est notre force et qui est vraiment très, très intéressant pour arrêter un peu ces clivages qui nous enferment. Donc après, toutes les perspectives politiques, 2017 bien sûr, hein, puisque plusieurs partis vont porter une concrétisation de revenus de base qu'on aura à choisir. Donc là, l'urgence, en tout cas, celle qui me dope en ce moment, c'est d'élargir un maximum le débat, de donner suffisamment les moyens à chacun et chacune pour se faire sa propre opinion, se laisser le temps pour que les peurs disparaissent, les conditionnements se fluidifier et rentrer dans le débat à manche raccourcie.
Merci Virginie. Je vais préciser aussi qu'il existe à Lille un collectif qui s'appelle, qui c'est une association d'ailleurs, le réseau Salaria 5962, donc qui promeut l'idée du salaire à vie qui est portée par Bernard Friot. Ça va dans le même sens, mais il y a aussi des points de convergence et des points de divergence que vous avez. Donc vous pouvez aller vous renseigner et tout à l'heure dans l'agenda, je vous reparlerai d'un événement lié à ça. Donc on va écouter une chanson.
Oui, pour conclure, c'était une introduction, en fait, l'intimidation de Virginie, à une manifestation qu'une attaque organise, boulevard Van Gogh, le 1er mars, à 18h, 18h30, je me souviens plus bien. 18h30, avec un certain Bernard Deleu.
Je ne connais pas.
Et Jean Gadret comme médiateur, on invite tout le monde à venir. Donc c'est boulevard Van Gogh à Villeneuve-d'Ascq, c'est pas l'espace culturel de la Rose des Vents, c'est de l'autre côté, c'est un local syndical de Sud Solidaire.
Numéro 38.
Ah ben voilà, René c'est tout, c'est René la science, c'est normal.
C'est quelle date
C'est le 1er mars.
1er mars, d'accord. Donc voilà, une petite pause musicale. Non, c'est pas ça.
Dans cette société sans emploi, pas de revenus à la fin du mois, au chômage ou au RSA, on nous parle d'assistanat. Il n'y a pourtant plus d'emploi pour tout le monde, faudrait un revenu pour rester dans la ronde. Mais les braves, j'en aime pas con, ne travaillent plus comme des cons. Non, les braves, j'en aime pas con, sois libre de bosser ou non. Il faut s'insérer dans l'emploi. Le travail libre, ça va pas de soi. Quand vient le jour du 1er mai, les syndicats ont oublié l'abolition du salariat, cela ne les regarde pas. Il n'y a pourtant plus d'emploi pour tout le monde. Le temps est venu d'une réforme profonde. Mais les braves, j'en aime pas con, ne travaillent plus comme des cons. Non, les braves, j'en aime pas con, sois libre de bosser ou non. Il faut s'insérer dans l'emploi. Facile à dire quand on en a. Quant aux travailleurs immigrés qui enrichissent la société, un revenu de citoyenneté garantirait leur dignité. Il n'y a pourtant plus d'emploi pour tout le monde. Partageons la richesse qui abonde. Mais les braves, j'en aime pas con, ne travaillent plus comme eux des cons. Non, les braves, j'en aime pas con, sois libre de bosser ou non. Il faut s'insérer dans l'emploi. Avoir le choix ? Certainement pas. Le travail subordonné, nous pourrions nous en libérer. Loin du mythe de l'oisiveté, choisir son activité. Être payé pour pouvoir travailler et ne pas perdre sa vie à la gagner. Mais les braves, j'en aime pas con, ne travaillent plus comme les cons. Non, les braves, j'en aime pas con, remettre le travail en question. Car le travail, c'est la santé. Mais le plein emploi, c'est du passé. C'est dans cette société sans emploi.
Oui. Donc c'était
Alexis Lecointe et Michael Le Sauce dans une reprise exclusive de Brassens.
Donc, tu avais quelques mots à rajouter ?
Oui, je voulais juste terminer en vous remerciant de l'invitation et en donnant rendez-vous à tous ceux qui ça intéresse sur le site Revenu de Base Lille. Et plus généralement sur revenudebase.info, vous trouverez tous les rendez-vous et les articles pour creuser.
Voilà, merci Virginie. On va passer, quand René aura fini de bricoler avec son micro, on va passer aux activités d'attaque. Vous n'aurez pas manqué de remarquer que nous avons réorganisé notre heure d'émission. René, tu vas nous parler des activités d'attaque, on est bien d'accord. Oui, et oui. Il semble que les rébellions citoyennes repartent de plus belle.
Oui, la COP21 à peine terminée, la logique administrative implacable reprend ses droits, avec deux décisions judiciaires confortant deux projets climaticides. Le 25 janvier à Notre-Dame-des-Landes, le tribunal de grande instance prononce l'expulsion des 4 fermes et des 11 familles historiques de la ZAD. Et le 28 janvier, concernant les gaz de schiste, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise autorise Total à reprendre les explorations dans plusieurs départements du Sud-Est. Deux manifestations d'ampleur nationale, et dans lesquelles bien sûr ATTAC est fortement impliquée, sont prévues pour fin février. Le 27 à Notre-Dame-des-Landes, contre les expulsions et contre le projet d'aéroport. Le 28 à Barjac, dans le Gard, contre le permis de Total et pour l'abrogation définitive de tous les permis. Loin d'être concurrentes, ces luttes sont solidaires et se répondent, représentant chacune un volet de l'opposition au projet climaticide, inutile et imposé. Dans ce bras de fer, la puissance des mobilisations au plan national pendant les semaines à venir va être décisive.
Alors, et puis, on a reparlé des chaises récemment à la télévision avec Thomas Coutreau, et je sais même que José Bové en avait parlé.
Oui, alors les 196 chaises ont été remises à la justice. Vous vous souvenez d'ailleurs de l'opération Faucheur de chaises lancée en septembre dernier. C'était dans la perspective de la COP21. Donc, lundi 8 février, à l'occasion de l'ouverture du procès Cahuzac, 200 citoyens et citoyennes ont remis à la justice les 196 chaises réquisitionnées dans les banques, impliquées dans l'évasion fiscale. Les faucheurs de chaises rappellent qu'il ne s'agit pas seulement de juger un homme, mais de faire le procès de l'évasion fiscale.
Oui, en plus, quand même, Cahuzac, il a eu du bol, il a un avocat, ou plusieurs avocats d'ailleurs, et ce sera porté en septembre dans le meilleur des cas. On est même à en douter.
Ah oui. Encore un qui pourrait bénéficier d'une certaine impunité.
Ouais, pourquoi pas, en effet. Tu vas nous parler de Bolloré. Tu m'as dit que tu allais parler de Bolloré, parce que Bolloré est en train de faire parler de lui actuellement. Il est en train de limiter les émissions d'investigation à Canal+. Il serait pas un peu contre la liberté d'expression, cet homme ?
C'est bien possible, puisque le jeudi 11 février s'ouvre le procès en diffamation contre le site d'info indépendant Bastamag, sur sa plainte, bien sûr. Le milliardaire Vincent Bolloré cherche à étrangler un jeune site indépendant, alors même que ses entreprises africaines sont accusées par les ONG de violer les droits humains et que son groupe possède de nombreuses connexions avec les paradis fiscaux. ATTAC apporte tout son soutien à Basta et demande sa relaxe ainsi que l'ouverture immédiate d'enquêtes officielles sur les agissements du groupe Bolloré. ATTAC souligne également que sans lanceurs d'alerte, les scandales concernant l'évasion fiscale n'auraient pu être dénoncés.
Ok, et puis on va parler de l'activité locale. Là.
Oui.
Alors, le collectif Ouï Ouï Ouï, Alternatiba, les Amis de la Terre, la Confédération Paysanne, le collectif Stop Tafta, ont également prévu des actions. Alors, de quoi tu vas nous parler là ? Du samedi prochain, non ?
Alors, pour le samedi 27 février, donc voilà. En soutien aux rébellions citoyennes de Notre-Dame-des-Landes, de Barjac, dont j'ai parlé, nous vous invitons à rejoindre la manifestation de protestation contre les projets climaticides. Et des projets climaticides, il y en a plusieurs dans la région, et aussi contre les accords de libre-échange qui les favorisent. Donc rendez-vous le samedi 27 février à 14h30, Grand Place à Lille.
Ouais, en effet, on sera forcément présent samedi prochain. Et alors, le TAFTA, on n'a toujours pas fermé la boutique. Le TAFTA, ça continue.
Ah non, justement, puisque je parlais aussi que les accords de libre-échange favorisent les projets climaticides. Le collectif Stop TAFTA, de son côté, prévoit aussi de nouvelles actions. Faut savoir que le 12e round des négociations vient de commencer, enfin va commencer, se déroulera du 22 au 26 février. Alors pour relayer les campagnes nationales, dès le 20 février, notre collectif local va envoyer par email une lettre d'interpellation et d'information aux maires et conseillers municipaux des principales communes de Mel, c'est-à-dire de la communauté urbaine de Lille. Leur proposant également de déclarer leur ville hors TAFTA. Cette opération sera appuyée par des membres du collectif qui, dans leur propre commune, interpelleront leurs élus par courrier et organiseront par exemple, au cours d'événements locaux, des campagnes d'information et de signature de la pétition « Je souhaite que ma commune se déclare zone hors TAFTA, CETA ». Le CETA est en accord avec le Canada, je le rappelle.
En effet, oui.
Le 25 février, nous relayons également l'action nationale à l'OPS, pas d'ISDS, qui consiste à saturer les lignes téléphoniques et réseaux sociaux du PS.
Alors l'ISDS, c'est les tribunaux administratifs ou administratifs au privé plutôt,
voilà.
Qui vont gérer les différends entre
les multinationales et les États.
Et les voilà. C'est l'acronyme anglais, hein, ISDS.
Oui, voilà.
Tribunaux d'arbitrage, voilà le terme.
Oui, c'est ça.
Donc ça démarre fort pour le collectif cette année, René ?
Ah oui, c'est pas mal. Et puis d'autres actions hors TAFTA et CETA sont prévues. Par exemple au niveau des quartiers, des immeubles, des commerces. Notamment une opération en direction des librairies indépendantes qui va bientôt démarrer, je crois.
Oui, parce qu'il n'est pas du tout impossible, évidemment, que la loi Lang, les 5% maximum de remise pour un bouquin, soit perdue dans les logiques, mettant d'Amazon et autres.
Oui, tout
fortement.
À fait.
Et d'autres collectifs, alors tu nous parler
ah oui,
du collectif
enfin,
oh.
Toujours pour le TAFTA, une action de rue comme celle du 18 avril 2015 est en projet.
Alors, les autres collectifs, la coalition régionale n'a pas fini de travailler depuis décembre.
Non. Une réunion plénière est d'ailleurs prévue le lundi 29 février à la MRES.
À 18h comme d'habitude.
Oui, 18h-20h, c'est ça.
Le collectif O.
Eh bien, après avoir mené une petite enquête, nos craintes se confirment. Un habile tour de passe-passe de la part de Mel et d'Ileo, cette société dédiée associant la communauté urbaine et Veolia, nous présente une baisse de tarifs qui se traduira, du moins pour une partie des usagers en tout cas, par une hausse. Ceci en jonglant avec la baisse de l'abonnement et une hausse du prix du mètre cube et de l'assainissement. Alors en matière de com, on peut leur dire chapeau. Un gros travail d'alerte et d'information est en perspective pour le collectif, bien sûr. Et d'autre part, Jeanne-Marie, donc une des membres du collectif, continue ses recherches dans les archives sur les modalités d'acquisition des unités de production par les eaux du Nord-Suez.
Et puis, dernier point sur la coordination des transports, pour la gratuité des transports dans la métropole lilloise.
Oui, qui organise une manifestation le samedi 27 février, donc à 15h, sur la Grand Place à Lille. Eh bien, venez nombreux, venez nous rejoindre.
Tu peux dire ça. J'ajoute un mot quand même. Cette coordination, ils sont partis il n'y a pas plus que 6, par un prompt effort de communication. Ils sont maintenant à 18 ou 16 organisations pour défendre la gratuité du transport. Et de mon point de vue, ça ne va pas s'arrêter là. Bien, on va passer peut-être au coup de gueule. Il n'y a pas beaucoup de coups de gueule. Alice.
Micro,
C'est plus une chronique finalement, une petite chronique qu'un coup de gueule, enfin qui génère son lot de frustration et d'incompréhension. C'est-à-dire quand on milite, donc on fait des rencontres, on parle avec des gens dans d'autres collectifs qui sont investis sur d'autres causes concrètes. Puis là, on apprend, je pense notamment à la crise des migrants, cette fameuse crise des migrants. Cela dit, des migrations, il y en a toujours eu, hein, ça a toujours existé, les migrations. Toujours est-il que face à cette crise, il y a des budgets qui ont été votés au Parlement européen, qu'on aime l'Europe ou pas. Le fait est que l'Europe a mis des enveloppes, a rempli des enveloppes à destination de cette crise. Et donc, j'ai trouvé le chiffre d'1,6 milliard d'euros qui ont été votés en plus de la proposition initiale. Proposition initiale dont j'ai pas trouvé le chiffre. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelques milliards disponibles si on fait la demande auprès de l'Europe pour pouvoir donner des moyens concrets d'action sur les territoires, peu importe où ils sont. Donc là, je pense à Calais, je pense aux mineurs des Hauts-Lieux à Lille, et puis il y a les Roms, hein, toujours, qui sont toujours là à errer, à être envoyés d'une commune à l'autre, sans moyens, soi-disant. Enfin bref, toujours est-il qu'il y a des enveloppes, mais il n'y a personne dans les conseils généraux, conseils départementaux. D'ailleurs, si on va sur les sites, on ne parle pas de la crise des migrants sur ces sites-là. On en parle un petit peu sur celui de la mairie de Lille quand même, comme quoi en septembre 2015, on va faire des choses. On va faire des choses. Bon, les mineurs des Hauts-Lieux, il y en a toujours qui couchent dehors. Hein. Et à Calais, on sait où ça en est, avec les crispations, avec les commerçants qui montent au créneau et avec toute cette qualité de vie pour les habitants qui est détruite, tout autant que pour les migrants qui sont dans des conditions absolument déplorables. Bon, bref, tout va bien. Mais donc, il y a de l'argent, mais il n'y a personne qui va le chercher. Alors, heureusement qu'il y a des associations pour faire des choses concrètes, parce que les élus, que font-ils ?
Merci pour cette intervention tout à fait juste et justifiée. J'ai moi-même participé à un organisme de formation et en fin de round, la région nous a interpellés pour dire on a encore de l'argent, on l'a pas dépensé. Et c'est un peu dramatique quoi, de voir cette situation. En particulier, à l'époque, c'était pour les Roms, mais les Roms sont toujours là et dans les conditions qu'on connaît.
Surtout, si je puis me permettre une remarque. Surtout que... je sais plus ce que j'allais dire. Surtout que... par rapport à ce que tu disais... Non, je suis désolée, ça va échapper.
Ouais, ça ne veut rien. Je vais parler de chiffres aussi, pour une minute. C'est un coup de gueule, en fait. Je ne veux pas le louper, celui-là. Ça partait d'un bon geste, une bonne idée, former les demandeurs d'emploi. Sors ta calculette, René, tu vas pas être déçu. Le deal, c'est 1 milliard d'euros pour former 500 000 demandeurs d'emploi. Si tu considères qu'une formation, un tantinet technique, coûte 10 euros de l'heure, et je peux dire que c'est plus que ça, 1 milliard divisé par 10, ça fait 100 millions d'heures de formation divisé par 500 000 demandeurs d'emploi, ça te fait une formation de 200 heures. Super, c'est vachement bien payé pour un stage parking. Je précise qu'une formation qu'on peut dire sérieuse, une année d'UT par exemple, c'est 600 heures. Et le diplôme complet, diplôme universitaire de technologie, c'est le double, 12 200 heures, hein, sans compter les stages. Si tu prends le problème à l'envers, René,
oui.
Il faut former 500 000 personnes, 500 000 demandeurs d'emploi, et tu as 1 milliard pour ça. Donc 1 milliard divisé par 500 000, ça fait 2000 euros par personne. Maintenant, tu fais bouger le curseur du volume horaire de formation. Pour 100 heures, 2000 euros, ça fait 20 euros de l'heure. Tu es toujours bien payé. Pour 250 heures, ça fait 8 euros. Et pour 500 heures, ça fait 4 euros de l'heure de formation qualifiante et certifiante, comme dit la ministre. Et après ça, eh ben, demain, on rase gratis. Une petite musiquette.
Une petite musique.
Petite musiquette, allez.
Thank you.
Les chômeurs de mon quartier devraient être salariés. Pour leur bonne humeur et leur disponibilité, leur présence bienveillante fait qu'autour d'eux tout s'enchante, comme un repère important qu'on peut trouver tout le temps. Comme un service public, le chômeur te renseigne quand tu cherches une rue sur un plan et que t'es pressé. Tu comprends tout de suite que tu frappes à la bonne enseigne. Il te donne de son temps sans aucune arrière-pensée. Les chômeurs de mon quartier devraient être salariés, car ils répondent présents à chaque déménagement. Ta voiture a un souci et ils plongent dans le cambouis. T'as une panne informatique et voilà l'esprit pratique. Ils sont tellement compétents dans de multiples domaines que de n'en choisir qu'un, ce serait du gâchis. Faire bêtement la même chose toute la semaine, alors qu'ils aident chacun à être mieux dans sa vie. Les chômeurs de mon quartier ont chacun 12 000 métiers. Commenter la météo, t'aider à faire ton créneau, ça ne paraît pas grand chose, mais dans nos villes moroses, d'égoïstes et de nerveux, ben ils mettent du ciel bleu. Quand j'ai besoin de parler autour d'une tasse de café, où est le psy bénévole qui m'écoutera des heures? Ce sont les copains chômeurs toujours prêts à se sacrifier. C'est bien simple maintenant, je les appelle docteurs. Mais il y en a des traîtres, des chômeurs malhonnêtes, et qui du jour au lendemain se remettent au turbin. Par une journée un peu triste où tu passes à l'improviste pour mater un DVD, le chômeur t'a planté. Il a rejoint la cohorte des gens stressés par la vie, piqué par le démon de la reconnaissance sociale. D'un air pincé, il te dira, on peut se voir samedi, que c'est triste de voir un copain trouver du travail.
Oui, le chômeur de mon quartier, Bistan, Renaud. Voilà une chanson qui nous met en joie. Mais c'est pas que la joie, une fois n'est pas tout coutume. Je vais commenter une seconde l'actualité. J'ai appris ce matin la mort d'Umberto Eco et je pense que c'est un énorme bonhomme de la littérature mondiale qui disparaît. Le meilleur de la littérature, comment dire, d'enquête, hein, sémiologue, il n'y a rien qui l'intéressait plus que la langue. Est-ce qu'elle dit la langue? Est-ce qu'elle ne dit pas le message, la cabale, le mensonge avec la cabale, tout ça était au cœur de ses écrits, y compris dans son tout dernier bouquin, d'ailleurs le numéro zéro, mais c'est aussi l'essentiel de son meilleur bouquin de moi, Le cimetière de Prague. Voilà, et je n'oublie pas non plus les pastiches. Les postiches et les pastiches, c'est un bouquin, et la merveilleuse d'ingéniosité de ces petits récits. Je pense aussi avec un voyage avec un saumon. Je reste la parole à Florent pour le calendrier militant.
Ouais, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Le réseau salariat de Lille organise une lecture collective de l'ouvrage Émanciper le travail de Bernard Friot. Ça sera au Café Citoyen de Lille le 24 février à 18h. Donc l'occasion d'approfondir le sujet qu'on a traité aujourd'hui autour des questions comme comment peut-on travailler mais ne pas avoir d'emploi. Le dimanche 28 février à 13h, fête solidaire avec les femmes du centre d'hébergement d'urgence de Moulins. Ça sera au cinéma L'Univers où on privilégiera les liens. On coud, on crée, on lit, on danse. Tout un tas de choses de la vie. De nombreux ateliers en direction des grands et des grandes et des petits et des petites vous seront proposés par les femmes du centre d'hébergement d'urgence de Moulins et les objecteurs de croissance de Lille. L'entrée se fera sous forme de collecte mais aussi à prix libre. Le samedi 5 mars à 10h au lac de Liévin, on y discutera de qu'y a-t-il derrière nos ordinateurs, tablettes et smartphones, dans quelles conditions sociales et environnementales sont-ils produits. CLIS 21 vous propose, en collaboration avec Amnesty International, de penser ensemble l'aspect matériel de notre dépendance au numérique autour de la campagne de l'ONG. Sujet tout à fait passionnant. Enfin, le 29 février à 19h, au même endroit, discussion autour du livre de Guillaume d'Avranches, « Trop jeune pour mourir, ouvrier et révolutionnaire face à la guerre 1909-1914. En juillet 1914, tous les Français ont-ils marché comme un seul homme pour défendre la patrie en danger? Pas du tout. Bien trop de nombreux étaient les gens vaccinés contre le mirage patriotique et qui savaient qu'on allait les faire tuer pour des intérêts capitalistes et coloniaux. L'histoire étant écrite toujours par les vainqueurs, il est ô combien utile de revenir sur cette époque. Trois projections. La première, ce soir à 21h au CCL, donc 4 rue Colmar à Lille, du film intitulé « Pied de biche » en présence du réalisateur Mathieu Quillet. Documentaire sur l'espace autogéré des tanneries et le quartier libre des Lentillères à Dijon et d'autres joyeusetés en rapport avec les squats et l'autogestion. Donc quand on sait qu'il y a 2,5 millions de logements vides en France, il y a autant d'imaginaires à réaliser. Donc c'est un film en cours de réalisation, donc vous pouvez participer à la version finale pendant la rencontre débat. Autre projection demain soir à propos d'un autre sujet, les industries animales. Donc le documentaire intitulé « The Ghost in Your Machine » porte sur le travail de terrain de la photographe John-Ann MacArthur, qui se voit un peu comme un photo-reporter de guerre. Elle a dû se déguiser, entrer par infraction dans les industries pour mettre en lumière les vies des divers animaux rescapés ou vivant encore le cauchemar mécanique de notre monde moderne. C'est une fenêtre sur les industries qui exploitent les animaux, de l'alimentation, divertissement, mode, recherche pharmaceutique, etc. C'est donc demain soir au cinéma L'Univers à partir de 15h.